Des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Essay au micro de Canal M pour vous présenter cette émission spéciale consacrée à quelques auteurs que je vais recevoir, que nous allons recevoir à notre kiosque de chez Vues et Voix au Salon du Livre. Aujourd'hui, alors que nous sommes à une semaine déjà de l'ouverture du Salon, je vous annonce une entrevue très animée avec Mylène Paquette qui enregistre son livre, qui l'a enregistré « Dépasser l'horizon ». Mylène Paquette, je vous le rappelle, la première et seule femme à avoir traversé l'Atlantique à la rame en solitaire. En seconde partie, vous allez découvrir d'autres auteurs qui seront avec Mylène Paquette régulièrement à ce nouveau kiosque de Vues et Voix. Au Salon du Livre, il y aura Marie Gray et puis Marie-Lise Pilote. Marie-Lise, c'est la première dont nous avons enregistré un livre. Et puis, cette année, un livre audio, bien sûr, commercial. Cette année, notre organisme se démarquera au Salon du Livre avec un événement Nelly Arcand. On va en reparler à l'émission la semaine prochaine avec Claudia Larochelle, Mara Tremblay et Pascal Montpetit. Tous ces auteurs sont ou seront très prochainement disponibles en version audio gratuite ou commercial, donc disponible absolument à toutes les oreilles. Et ce sont des productions Vues et Voix dont nous sommes bien fiers. Alors, avant de pouvoir rencontrer Mylène Paquette en personne à notre kiosque, je vous la présente aujourd'hui. Elle est en studio pour nous parler de cette fantastique aventure qu'elle a vécue, rédigée et lue. Bon vent!
Au son des cornes de brume des bateaux qui me souhaitent bon voyage, je me dégage du quai. Tellement je souris, j'en ai mal aux lèvres, aux joues. Lentement, non sans embarras, je donne mes premiers coups de rame. Je suis aux premières loges de mon rêve. Enfin, je touche à l'instant qui m'envahit de sensations. J'ai la tête pleine de papillons. Je sens que la mer est mienne et que l'avenir m'appartient droit devant.
Rame, rame, rameur, ramez. On avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller, tais-toi et rame.
Mylène Paquette. Salut. Mylène, je fais partie de tous ces gens qui avaient suivi cette aventure dont on va parler aujourd'hui, que tu as relaté dans un livre. Ça s'appelle « Dépasser l'horizon ». On parle bien sûr de cette aventure de la traversée de l'Atlantique à la rame, en solitaire.
Oui.
C'était il y a combien de temps déjà?
Là, ça va faire 5 ans.
Ça déjà. Va faire 5 ans.
Bientôt 5 ans, oui.
Et alors, on se dit, mais alors pourquoi tout d'un coup, pouf, on ressort Mylène Paquette de son bateau, on la ressort de la mer et on la remet sur terre simplement parce que tu as accepté d'enregistrer, c'est une production Vues et Voix, ce livre-là qui sera maintenant disponible pour toutes les oreilles.
Exactement. Ouais.
Avec cette jolie voix qu'on t'a entendue.
Oui. Alors, je suis super contente parce que j'écoute souvent des livres audio autant en français qu'en anglais.
C'est vrai?
Puis, oui, j'en écoute beaucoup, moi, avec la petite application Audible. Puis, régulièrement, je me disais, ça fait longtemps, en fait, que je voulais le faire, mon livre audio. Donc, il y a même 1 an et demi, j'avais commencé à discuter avec le directeur de la presse, c'est quoi les prochaines étapes, comment faire et tout. On a commencé à en parler sérieusement. Et aussi parce qu'il y a une réédition qui s'en vient, donc une réédition de mon livre. Oui. Alors, j'ai ajouté des chapitres sur l'après-traversée. Et puis, là, je me suis retrouvée à lire la nouvelle version de mon livre. Alors, ça m'a donné le goût de le lire à voix haute. Oui, c'est ça. Donc, cet été, j'ai ajouté 7 chapitres. Et puis là, je me suis retrouvée ici dans les studios pour enregistrer le livre audio. Puis j'ai vraiment du plaisir.
Si tu me le permets, il faut quand même revenir au début de cette aventure-là. Oui. Parce que c'est sûr qu'il faut une pulsion. Bon, moi, maintenant, je l'ai lu, ce bouquin, donc je la connais. Mais je voudrais que tu nous en parles. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Mais au départ, il y a une vision. Hein?
Oui. Ben en fait, au départ de tout, ben il y a une fille qui est pas à l'aise dans son travail parce que c'est pas un milieu qui lui convient, parce que je suis trop sensible. Je travaille avec les enfants malades à l'hôpital Sainte-Justine depuis au moment où j'ai découvert la navigation. Ça faisait 7 ans que je travaillais avec les enfants malades et donc c'est ça. C'est comme une fille qui est pas très à l'aise dans son contexte et puis qui a comme une quête. Tu sais, je sentais comme une quête de vivre ma vie plus intensément. Parce que d'un côté, je voyais des gens très, 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 très extraordinaires évoluer dans un milieu de soins hospitaliers, des super médecins, des super infirmières. Tu sais, j'avais des super collègues, là, vraiment là, exceptionnels. Et puis de l'autre côté du spectre, j'avais des parents, des familles, des enfants, autant des familles qui vivaient des joies extraordinaires que des deuils très difficiles à passer. Et moi, je me cherchais un peu dans tout ça.
Dans tout ça.
Ouais, et j'avais comme une certaine quête d'absolu aussi parce que j'arrivais à l'aube de la trentaine puis j'avais comme une soif de vivre quelque chose puis une urgence de vivre aussi.
Mais l'eau, c'était pas...
Non, c'était pas quelque chose que je connaissais non plus.
À un moment donné, d'ailleurs, tu dis... T'es poule mouillée, voilà, exact. C'est ça l'expression que tu dis.
Oh, oui, exactement. Moi, j'aime pas me baigner, j'aime pas être seule dans l'eau. Donc, être sur l'eau, j'ai jamais eu de problème avec ça. Depuis la tendre enfance, j'ai fait du ski nautique, mais... Je ne tombe pas en ski nautique parce que j'ai horreur d'être immergée. Je suis sur l'eau, aucun problème. Planche à voile, sur des skis, sur n'importe quoi qui flotte, j'ai pas de problème, tu sais. Donc, quand j'ai découvert la navigation, je suis tombée amoureuse complètement, là, de la navigation. Et de fil en aiguille, ben, j'ai découvert la rame océanique. Et, à partir de là, ben, c'est enchaîné une enfilade de réflexion et de développement, tu sais, dans ma tête, est-ce que je peux faire ça et tout ça, jusqu'au jour où il y a un enfant malade qui m'a vraiment bouleversée, qui m'a dit que ben je savais pas ce que c'était que d'avoir peur et d'apprivoiser mes peurs et accepter.
Cynthia, c'est
exactement,
ça, hein, Cynthia. Et puis bon, autour de vous, évidemment, il y a personne ne comprend parce que il y a pas à ce moment-là, en tout cas. Après, il y a des gens qui vous soutiennent, mais au début, enfin qui te soutiennent au début.
Il y a personne. Non.
À commencer par ton père, puis la figure paternelle, elle a l'air d'être essentielle pour toi. Et même si cet homme-là t'as toujours dit, quand t'as quelque chose dans la tête, va jusqu'au bout, cette idée-là, il la trouve très, très, très mauvaise.
Oui, très, très mauvaise. Donc, d'un côté, j'ai le support de ma maman qui comprend un peu qu'est-ce que je veux faire, puis pourquoi, parce que mes deux parents sont très sportifs. Hein. Les deux sont quand même assez aventuriers. Moi, maintenant, mais ma mère... passé 70 ans, fait encore des sports, des arts martiaux, puis des trucs que, tu sais.
Quand on dit les chiens font pas des chats, les amis.
C'est ça, exact. Donc, mon papa, il est moins en forme maintenant, là, parce qu'il souffre de Parkinson, mais sinon, mes parents, ça a été des sportifs et des aventuriers toute leur vie. Donc, ma mère comprend cette soif-là, et mon papa, lui, résiste à penser que c'est une bonne idée. Donc, pendant des mois, il va me bouder, il va pas m'adresser la parole, là, parce que pour lui, c'est la seule réaction... propre à avoir dans cette situation-là. Et puis, ben ma famille autour de moi, tu sais, la famille élargie, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, je crée vraiment une espèce de faille dans ma famille. Tu sais, il y a les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, et là, t'en as qui essaient de convaincre mon papa, t'en as qui disent à mon papa, tu fais bien de pas y parler, ou tu fais bien de pas penser que c'est une bonne idée, tout ça, donc...
C'est agréable l'ambiance à Noël, ce temps-là.
C'est ça. C'est drôle, donc... Donc, tout ça avance, et puis tranquillement, ben, je prévois un premier voyage en équipage que ma mère m'a suggéré de faire.
Oui, tu fais ce voyage avec 5 gars.
Oui, c'est ça.
Tu es seule avec 5 gars, mais ça s'est bien passé.
Oui, ça s'est quand même bien passé, oui.
Je t'ai dit, OK, je peux le faire.
Oui, je peux le faire, puis après cette première aventure-là, c'était l'environnement qui m'avait tant parlé, tu sais, les déchets que j'avais vus sur l'Atlantique, les mammifères, les poissons, mais aussi la quantité de plastique puis de rebuts que j'ai croisés. Donc, je me disais maintenant, si j'ai le courage, si j'ai ce cadeau-là, parce que je l'ai pas construit, ce courage-là, tu sais, je suis une fille, bon, polyvalente, courageuse, oui. Donc, si j'ai ce don-là, si on peut dire, ben, j'ai aussi la responsabilité qui vient avec. Tu sais, ce don-là me permet de vivre sur l'océan, puis d'aller confronter les éléments, puis de vivre cette aventure incroyable. Ben, si je me sers de l'océan pour faire tout ce que j'aime, ben, je dois avoir la responsabilité aussi de parler d'elle. Donc, je suis allée chercher là d'autres motivations. J'avais d'autres objectifs secondaires à mon projet que de traverser l'océan pour moi, puis pour avoir du fun, puis du plaisir.
On avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller, tais-toi et rame, 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 rame.
j'ai lu des choses, mais j'étais tellement mal pour toi. Je veux dire, ça, financièrement, évidemment, c'est la banqueroute totale. Mm-hmm. Tu t'es endettée à n'en plus finir. Oui. C'est même allé jusqu'au bien-être social.
Mais en fait, j'ai pas envoyé ma demande de bien-être social.
T'as pas envoyé ta demande, mais tu y as pensé.
Oui,
j'ai tout à ce moment-là, t'es totalement presque détruite. Enfin, t'es à la veille, tu y penses d'abandonner, mais tu ne l'abandonnes pas. Tu retournes vivre chez tes parents.
Oui, à 32 ans. Je suis fragile. Comme un petit oiseau aux ailes brisées, aux rêves dépouillés de lumière, je panse mes plaies et me refais doucement une santé. Je suis à bout de force à cause du surmenage des derniers mois. Trop souvent fleur de peau, je me cache pour pleurer. Je me sens ingrate et égoïste d'imposer mon choix à mes parents de la sorte. J'ai honte qu'ils soient obligés de m'accueillir à la maison après que je l'ai quittée à l'âge de 18 ans. Les côtoyer tous les jours me fait du bien. Et comme pour leur faire honneur, je puise dans ce qui me reste d'orgueil pour continuer à travailler d'arrache-pied depuis la maison familiale. Un soir, alors que j'essuie encore une vague d'indifférence totale face à mes nombreuses demandes de commandite, épuisée et défaite, j'éclate en sanglots devant mes courriels. Papa, installé plus loin sur son sofa, ouvre les bras et je cours m'y blottir. Il me console du mieux qu'il peut. Ce soir-là, allongée avec mes mouchoirs sur le canapé, la tête posée sur la cuisse de papa, mes larmes se déversent et mes nerfs lâchent. Je fais des excuses les plus sincères à papa. Je lui demande pardon d'avoir gâché ma vie avec cette idée folle. Je lui donne raison. J'abdique. Ce n'était pas une bonne idée. J'abandonne.
Mais il y a une très belle scène, c'est la découverte du bateau.
Oui.
Moi, j'étais très touchée. Et je me suis dit, c'est drôle, j'ai l'impression qu'elle a un coup de foudre, exactement comme quand on a un coup de foudre pour une personne et qu'on, comme le chante Julien Clerc, je sais que c'est elle. Tu sais. Et quand tu découvres celle qui s'appelle le péta au début, hein, c'est tu ne l'achètes pas tout de suite, tu
non,
repars,
exact,
mais... Ouais. Ça travaille, ouais, quoi.
Exactement. Donc, j'ai une liste de bateaux, puis j'élimine certains bateaux. Il y en a que je conserve et tout. Puis, il y a toujours ce bateau-là qui aucune
travaille.
Raison de l'éliminer, mais j'ai comme un doute, tu sais, puis je me dis, il est très cher, mais il est beaucoup plus cher que les autres, mais il est
en
bonne condition.
Pourquoi est-ce qu'il était plus cher?
Je pense qu'il était plus cher parce que le garçon qui l'avait utilisé l'avait ramené en Angleterre. Tu sais, donc, normalement, les gens vont l'acheter en Antigua et le faire venir en Angleterre. Donc, payer ce 10 000 $-là, ce 10 000 pounds pour le transport. Donc, lui, ben, il a dit, tiens, ça va être un bateau presque clé en main. Les appareils fonctionnent, tout est beau. Donc, je choisis ce bateau-là essentiellement parce que le propriétaire me permet d'avoir un arrangement de paiement.
Alors, ça a été, cette préparation, une aventure humaine dans tout ce qu'elle a parfois de plus laid et tout ce qu'elle a de plus beau.
Oui.
Et tout ce qu'elle a de plus beau, je pense à Hermel, donc, qui a même fini par être le nom de ce bateau, un type absolument fantastique, un vrai mentor. Quoi.
Oui, exactement. Ouais. Un mentor que, et c'est très drôle parce que j'ai jamais réussi à le tutoyer, on a essayé pendant 2 jours, j'étais incapable, pour moi c'était mon monsieur Miyagi, là, tu sais, mon mentor, là, tu sais, c'était quelqu'un qui, puis il fallait pas, ça me permettait de le vouvoyer, de garder toujours une espèce de fossé, de respect ou de clôture, parce qu'il y a des moments où j'ai sacré beaucoup au téléphone avec lui, là, ça marchait pas, puis de garder le vous, ça me gardait toujours dans une espèce de contenance.
Absolument.
Alors, il y avait toujours puis même mes collègues, eux c'était tu, là, mais moi, c'était vous, Monsieur Lavoie ou Hermel, tu sais, c'était vraiment quelqu'un que je respectais énormément, pour tout ce qu'il a donné, mais pour tout l'être qu'il était.
Alors, malheureusement, j'aimerais tous pouvoir qu'on les cite, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont été fantastiques. Je vais dire aux gens, lisez le bouquin et comme ça, vous allez tous découvrir ces gens-là. Parce que je voudrais aussi, on ait du temps pour parler de l'aventure, Mylène Paquette. L'aventure commence lorsque, à Halifax, tu donnes tes premiers coups de rame. Au moment où tu donnes tes premiers coups de rame, est-ce que c'est vraiment là que ça a commencé, ton aventure?
Ben, en fait, moi, je dirais que ça a commencé là, mais je suis tombée dans le coma après, là, pendant 4 jours, parce que j'étais malade.
T'étais malade.
Extrêmement malade, mais vraiment, j'avais jamais eu autant le mal de mer que ça. Et ça a comme commencé là, mais après, bon, j'étais malade, et là, c'est comme si ça allait recommencer après 4 jours. Mais je me souviens pas dans ma vie d'avoir été aussi heureuse. d'avoir mal au visage je souriais, là, d'avoir mal aux nerfs dans le cou parce que j'étais là et je souriais, puis j'envoyais la main, puis j'avais jamais été aussi bien dans un... Ouais. Puis tu sais, c'est... j'avais jamais imaginé non plus être aussi heureuse ce matin-là, mais j'étais confiante, j'avançais, j'étais là, je faisais des blagues aux gens le matin sur le quai, les gens étaient, eux, plus, je pense, plus anxieux que moi, tu sais, moins certains de vouloir me laisser partir. Il y avait des inconnus aussi, là, sur plein d'inconnus qui étaient là.
Comment on deal, Mylène Paquette, avec la peur? Parce que, excuse-moi, mais, tu sais, je te vois, là, toute feluette, là, au fond de ton... Je veux dire, à un moment donné, même parfois, quand j'entends les navigateurs, les marins, écrire comme tu l'écris, « Oh, j'ai passé 4 jours au fond de mon... » Attends, 4 jours, il peut se passer, tu peux très bien dériver, puis...
Oui, mais tout est en... C'est sûr que de résumer en deux...
Non, je t'en prie.
Résumer en deux paragraphes, 4 jours, c'est sûr que ça enlève le sujet de son contexte, parce que c'est à toutes les minutes de chaque heure, puis à toutes les heures de chaque jour, ben il y a une remise en question qui s'impose. Donc, je suis malade, 15 minutes plus tard, je regarde ma position, tout est correct, il n'y a pas de bateau autour, je dérive dans une bonne direction malgré que je ne peux pas ramer. Donc, les inquiétudes sont un peu éteintes. J'éteins les feux. L'anxiété du jour, tu sais, on se fait pas d'anxiété pour le surlendemain, mais que pour la journée même ou le lendemain.
Est-ce que tu t'es vu mourir?
Juste une fois où j'ai vraiment pensé que ça pourrait arriver, mais sinon, non. Même si j'avais tout préparé à l'avance, là, même si c'était possible, c'était pas... je me suis pas vue... Je me suis vue ruiner ma vie avec ce projet-là, parce que ça fonctionnait pas.
Ouais.
Je me suis vue finir barmaid dans un bar au Costa Rica. Je me suis vue changer de nom de famille. Je me suis vue, mon Dieu, être la honte de ma famille, ma parenté.
Ouais.
Mais je me suis pas vue mourir. Pour moi, ce qui était pire, c'était de ruiner ma vie avec ce projet-là que de mourir.
Ouais.
Mais en fait, ces peurs-là, moi, je les fréquente beaucoup plus quand j'ai un petit voilier là, au lac des Deux-Montagnes et j'ai plus peur sur mon petit voilier avec tous les autres embarcations autour, avec les roches, les rochers, tout ça, que sur l'océan. Parce que sur l'océan, les dangers, en fait, d'une embarcation comme la mienne, celle que j'ai utilisée pour traverser l'océan, les plus grands dangers, c'est les récifs, le mouvement des fluides près des côtes, les filets de pêche, les bateaux de pêche. Les tempêtes, c'est pas ça qui est dangereux pour un bateau. Une chute à la mer, ça peut être dangereux. Mais une chute à la mer d'un voilier, c'est beaucoup plus dangereux qu'un bateau à rame. Parce que si je chute à la mer d'un bateau à rame, le bateau, il va pas grand place. Là, je dérive à la même vitesse que lui.
Okay.
Donc, il y a beaucoup de dangers qui s'approprient, qui vont être tout près de nous, qui vont nous faire peur et nous angoisser quand on est sur le fleuve. Parce que sérieusement, ce qui est dangereux, je fais du canot à glace tout l'hiver, puis j'ai bien plus peur en canot à glace que sur l'océan. Les dangers sont imminents, là. Il y a des blocs de glace, il y a des cargos, on peut passer en dessous d'un cargo facilement, on peut s'arracher une jambe entre deux canots, il y a tellement de dangers et c'est vraiment très, 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 très rapide, vite, mais on le vit pas ça sur l'océan, on a le temps, on le voit le cargo passer, puis là on prend notre VHF, on s'adresse à lui, il parle. Excusez, est-ce que je suis dans un gisement de collision? Où t'en vas-tu? Moi je suis là. Okay. Non, j'ai pas de voile. Non, faut expliquer le projet. Non, ok, je suis pas en danger. Ok, bye bye. Tu sais, tout est dans une espèce de lenteur.
De lenteur.
Ouais, exactement.
Le plus beau moment, le Queen Mary 2?
Oui, je pense que oui.
D'ailleurs, ça, tu le savais avant, hein, qui allait sillonner dans les mêmes eaux à peu près.
Oui, je savais qu'il était passé par Québec, qu'il partait de New York et qu'il partait vers Southampton en Angleterre. Et étrangement, j'ai perdu plusieurs outils de communication, donc brisé plusieurs appareils durant la fin, un petit peu comme un ouragan. Et puis, malheureusement, j'ai brisé ces outils de communication-là et mon équipe ne me demande pas ma permission. Ils me disent pas « veux-tu qu'on t'en envoie de nouveau? » Donc, eux autres s'organisent, ils font tout pour pouvoir me faire une surprise. Et finalement, le paquebot se présente à moi le 26 septembre 2013. Puis je peux dire aujourd'hui que c'est vraiment le plus beau moment de ma vie. Durant notre conversation, j'entends résonner à la radio VHF « Here is Queen Mary 2, Queen Mary 2, Queen Mary 2 ». Nerveuse, je saisis l'appareil et échange quelques mots avec l'officier. Enfin, je vois poindre à l'horizon un tout petit point blanc qui s'avance lentement vers moi. J'échange encore quelques mots avec Jean-Pierre qui me confirme tout enregistré de notre conversation car je ne veux rien perdre de cette rencontre fabuleuse. J'explique à Jean-Pierre de rester au bout du fil et je le mets bientôt sur main libre pour mieux m'adresser au bateau. La silhouette se dessine et grossit jusqu'à ce que je puisse en distinguer les lignes. Je m'extasie devant le spectacle. L'immense paquebot avance avec assurance et devient de plus en plus présent. Je suis fascinée, troublée, exaltée. Je crois au mirage et j'ai peine à comprendre ce qui se déroule sous mes yeux. Le paquebot est là, à peine à 200 mètres devant moi. Je vois des bras me saluer, des flashs d'appareils photo, des milliers de silhouettes. Je sens une cacophonie de vibrations frapper mes tympans. J'ai peine à distinguer et à comprendre chaque son qui m'arrive. Je crie, j'envoie la main, je prends ma pancarte sur laquelle j'ai écrit « Thank you, Queen Mary 2 » et je la brandis dans les airs. Je capture le moment avec mon appareil photo. Et comme pour m'empêcher de devenir hystérique, j'explique ce qui se passe à Jean-Pierre dans les moindres détails. Premièrement, c'est une surprise, je m'attendais pas à ça. Et deuxièmement, c'était mon rêve de voir ce bateau-là. C'était quelque chose que je rêvais, que je caressais depuis longtemps.
C'est vrai.
Donc, il se déplace à moi comme ça. Et non seulement il se déplace, mais il vient de me porter des biscuits, des viennoiseries, du vin, tu sais.
Oui.
Cinq ballots étanches.
Ils chantent une chanson aussi.
Ils ont
appris une chanson. Il y a le capitaine qui leur a fait apprendre une chanson.
Oui, des cantonades, puis des hip-hip-hip, tout le monde ensemble. C'est vraiment incroyable. Donc, je leur ai parlé. Donc, à partir de ma VHF, ils ont mis ma radio VHF dans le téléphone, le haut-parleur, le système intercom du bateau, et je les entendais réagir à ce que je leur disais. C'était incroyable, vraiment.
Est-ce que
c'était...
tu l'as visité depuis? Est-ce que tu as eu l'occasion de monter à bord?
Oui, je suis allée quelques fois à bord, oui, parce que là, ben maintenant, le Queen Mary va à cette île. Mon bateau a été acheté par cette île.
Uh-huh.
Donc, quand le Queen Mary arrête, ben moi, je prends un petit avion, je me rends là-bas, je rencontre les passagers. Et là, ça fait deux fois que je vais à cette île pour voir le bateau. Et les deux fois, je rencontre à peu près... toujours à peu près sensiblement le même nombre de personnes qui étaient sur le bateau lors de ma rencontre.
Non.
Autant des employés que des passagers
oh.
qui font le voyage une fois par année.
Parce que eux aussi, ils
oui,
ont dû...
eux, ça a été...
Ça doit rester un des grands souvenirs de leur traversée.
Ouais. Eux me disent même qu'il y a des passagers là, qui m'ont rencontré et qui ont fait des croisières toute leur vie, puis c'était la plus belle croisière de leur vie, de voir cette petite bonne femme-là au milieu de l'océan, puis... Tu sais, puis il y a même des gens...
Avec son petit bandana, tu sais.
Oui, et c'est, même, c'est fou parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit des mois et des mois plus tard en me disant « Regarde, ça, c'est la photo que j'ai de toi.
Oh. »
Et moi, je leur dis « OK, comment vous étiez habillée? Sur quel balcon vous étiez? Je vous trouve.
Oh. »
Et j'ai tellement pris de photos que je peux retrouver les gens. Alors, je leur envoie des photos d'eux au milieu de l'océan. C'est fantastique, ouais, vraiment.
Quand on revient... Est-ce qu'on a le mal de terre? Et si oui, combien de temps?
Les effets secondaires de ressentir comme encore la mer bouger quand on est sur terre, c'était sporadique. Ça partait, ça revenait,
ça
tout
revenait.
Ça. Et puis là, ben, il y avait le temps des fêtes aussi. Oui. Donc, on fête un peu. Puis là, des fois, on oublie.
On mélange un peu.
Puis là, on oublie qu'on débarque du bateau. Puis des fois, ça revient. Donc, même un mois et demi plus tard, des fois, j'avais des soubresauts de ça. Mais la faiblesse dans les jambes, ça a pris jusqu'à 3 mois à peu près pour me remettre.
Est-ce que ça te manque? Est-ce que t'as un autre projet?
Ben, en fait, j'y pense...
Ça t'habite encore beaucoup.
Ouais, ben surtout quand je lis des passages comme ça. Là,
comme,
oui,
là, comme en ce moment.
Encore ce matin, je lisais mon livre, puis à voix haute, c'est pas pareil comme de le voir, de lire dans notre tête. T'sais. Puis je me dis, ben voyons, j'ai fait ça de même. Moi. Ben voyons, pourquoi j'ai mis ça dans cette cabine-là? Donc, je décris des trucs, je me dis, ah, pourquoi? Je repense à certaines... décision, je remets en question certaines décisions à lire mon livre. Des fois, je me dis, ben pourquoi j'ai fait ça de même? Alors, c'est vraiment drôle parce que ça m'habite encore comme si c'était un quotidien qui était pas très loin. Et deuxièmement, ben ça m'habite encore parce que je fais énormément de conférences sur ma traversée, sur toute l'expérience de travail d'équipe, de gestion du stress, du changement, d'attitude et tout ça. Donc, je viens apporter à des organismes, des grandes corporations aussi, je viens parler à des employés, donc j'emmène cette aventure-là, je la trimballe un peu partout avec moi. Et aussi, oui, j'ai le goût de repartir quand je vois des images.
Bien sûr.
Quand je vois des images que j'ai pas vues depuis longtemps, j'ai le goût de repartir, mais un jour, je repartirai. Mais peut-être pas à la rame, peut-être à la voile, peut-être pas seule, peut-être en équipage. Donc, il y aura d'autres projets, c'est sûr. D'autres projets d'aventure, parce que je trouve que quand on est dans la nature, quand on est dans l'aventure, il y a pas... d'autres moments dans ma vie où je me suis sentie autant un être humain. Je me suis jamais sentie aussi près de ma nature à moi et de ma personnalité et de vraiment qui je suis vraiment quand je suis extrait de mon quotidien de terrienne dans cet univers un peu trop balisé selon moi. Donc quand je retourne me retrouver dans la nature, c'est là que je reconnais qui je suis. Ouais.
Merci Mylène Paquette. Et je voudrais préciser aux gens qui nous écoutent qu'à l'heure actuelle, il y a déjà une version de Dépasser l'horizon qui existe pour les personnes non-voyantes via
oui,
le SQLA, mais qui n'a pas été lue par toi.
Exact.
Cette version-là, lue par toi, elle devrait être disponible, si tout va bien, à l'audio dès le Salon du Livre.
Exactement. Et ma nouvelle édition, donc Dépasser l'horizon,
oui.
l'horizon revue et corrigée, tout ça avec les chapitres supplémentaires pour le Salon du Livre.
Oui. Ouais. Merci tellement, Mylène.
Ça me fait plaisir, un immense plaisir.
Quel bonheur de t'entendre.
Merci.
Salut.
Merci beaucoup.
Ram, ram, rameur, ramé, on avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau, tu pourras jamais tout quitter, t'en aller, tais-toi et rame. Je m'en vais, mais l'eau est lasse. Chaumont, l'ange est à peine en bois. Amour, cordon, ficelle serrée. Lâchez, lâchez, je veux m'en aller. Ram, ram, rameur, ramé, on avance.
La suite de l'émission des livres plein les oreilles. Alors, en seconde partie, je vais faire connaissance en ce qui me concerne, mais peut-être que vous, vous la connaissez bien. Je vais faire connaissance avec cet auteur qui s'appelle Marie Gray, qui va venir nous présenter notamment une trilogie qui s'appelle Baiser. Et c'est une production de Vues et Voix. On va aussi parler d'autres livres de Marie Gray parce qu'elle écrit pour les jeunes. Elle écrit des choses un petit peu plus olé olé. Enfin bref, on va pouvoir parler de tout cela avec elle. Et puis, un des tout premiers livres, d'ailleurs le premier que nous avons enregistré en version commerciale audio, c'est celui de Marie-Lise Pilote l'an dernier. Vous l'avez peut-être entendu, c'est une édition La Presse et c'est une production Vues et Voix. C'est un gros succès en audio. Évidemment, si je vous en parle, c'est parce que vous pourrez aussi rencontrer ces deux auteurs au kiosque de Vues et Voix la semaine prochaine et que nous allons entendre en seconde partie de cette émission un montage, un des extraits de l'audio de l'entrevue avec Marie-Lise Pilote l'an dernier. Alors, avant de me tourner vers Marie Gray, je vous propose un extrait d'une chanson inoubliable sur la difficulté d'aimer et puis un extrait du livre audio « Baiser » lu par la formidable Marie-Claude Brasseur. Dans cet extrait-là très touchant, il s'agit de la rencontre entre un père et sa fille, un père qui culpabilise, un père mourant. une fille qui veut comprendre sa difficulté à aimer. C'est très, très, très touchant.
Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer. La chorale est venue. J'ai fait de la peine à mamie, j'ai fait de la peine à mamie, elle qui ne m'en eût point fait, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Et moi qui tant en méritais, et moi qui tant en méritais, dites mamie, vous m'en feriez, qu'il est difficile. Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile.
Évidemment, si je pouvais revenir en arrière, je changerais bien plus que ça. À commencer par les vacheries que j'ai faites à ta mère. Mais je peux pas. Je pense qu'elle pourra jamais me pardonner et je peux pas la blâmer. Toi non plus, sûrement. Mais que tu me permettes de te voir et de te dire tout ça, c'est déjà beaucoup. Je vais pouvoir mourir un peu plus en paix. Tu parles de mourir? Pourquoi? Es-tu malade? Je suis vieux puis magané, ma belle-fille. J'ai pas rien de grave, en tout cas je pense pas. Mais avec la vie que j'ai menée et comment je me sens, je m'en vais pas du bon bord, ça c'est sûr. Personne s'en va du bon bord. J'ai une amie de 35 ans qui a un cancer. Y a rien de sûr, excepté qu'on va tous mourir un jour. J'ai dit ça un peu sèchement. Pour le prévenir, sans doute que s'il essaie d'attirer ma sympathie en évoquant sa mort prochaine, je ne tomberai pas dans le panneau. Il le saisit très bien. Je sais, je m'excuse. Je voulais pas essayer de faire pitié, crois-moi. OK, ben alors explique-moi. Parce que je comprends pas. Puis qu'à cause de toi, je suis pas capable de faire confiance à personne. Puis après ce que t'as fait à maman et comment elle est devenue, j'ai peur d'aimer quelqu'un pour vrai parce que je veux pas avoir aussi mal qu'elle, ni devenir comme elle. C'est sans compter tout le reste. Oui, j'ai eu de la misère, comme tu dis, puis j'en ai encore. Mais je travaille là-dessus, et pas grâce à toi, mais grâce à un homme extraordinaire qui, malgré toutes mes bébites, m'aime pareil et veut qu'on se marie. Je veux guérir, j'ai envie de dire oui, mais je catch pas. Ça fait que, aide-moi, OK? Si tu veux vraiment faire quelque chose, fais ça, si t'es capable. Capable, je sais pas. Mais je vais essayer, ça c'est sûr. Es-tu pressé? Non, pas toute. Et il me parle. De la façon qu'il est tombé amoureux de ma mère et de leurs années de bonheur ensemble. De leur joie de m'avoir fabriqué, moi. De leurs espoirs et de leurs rêves d'alors. Puis de son insatisfaction au travail. De son souhait de devenir ingénieur qui ne s'est jamais réalisé. De la routine qui s'est installée très vite. Et finalement, de l'alcool.
Marie Gray, bonjour.
Bonjour.
Vous comprenez pourquoi j'avais choisi cette chanson de Vigneault? Parce que lorsque je suis tombée sur cet extrait du troisième de cette trilogie qui s'appelle Baiser, qui est lu par l'extraordinaire Marie-Claude Brasseur, eh bien, je me suis dit, toutes ces difficultés d'aimer-là, je trouve qu'il y a une chanson qui les représente.
Oui, c'est tout à fait approprié, effectivement.
Marie Gray, il s'agit donc d'une trilogie unique sur le mal d'aimer, sur la difficulté à aimer.
La difficulté à aimer, oui, bien sûr, mais la difficulté aussi de saisir le couple. Passer l'âge du prince charmant, passer l'âge de fonder une famille. Les trois protagonistes sont dans la quarantaine et la cinquantaine. Les valeurs changent, les critères aussi. On ne cherche plus un compagnon pour les mêmes raisons. Et tout ça, c'est difficile parce qu'on se connaît de mieux en mieux. On mm-hmm. on n'est pas prêt à faire les mêmes concessions non plus. Tout ça a changé beaucoup au cours des années où on était en couple. Mm-hmm. Ça a changé sans qu'on s'en rende compte. Et tout d'un coup, on se réveille à ces âges-là et on conçoit les choses complètement différemment.
Trois livres, donc, mm-hmm. et à chaque fois, une personnalité différente. Je veux dire, le fait, rôle oui. principal, mm-hmm. parce qu'en fait, ce sont trois amis, hein, c'est ce que...
Ce sont trois bonnes amies.
OK.
Et évidemment, elles se soutiennent l'une l'autre. Elles se bitchent aussi l'une l'autre, comme de bonnes amies le font. Mais elles sont toujours là l'une pour l'autre, mais elles sont très différentes aussi.
Alors, quelle est leur personnalité à chacune?
Alors, dans le tome 1, on a Julie. Julie est pitiante. Elle est un peu popoune. Elle est très féminine. Elle aime sortir. Elle aime s'amuser, elle aime faire la fête. Elle vient de se séparer après 17 ans de vie commune. Et pour elle, le célibat, c'est quelque chose qu'elle doit vraiment apprivoiser.
Oh oui, hein?
Et c'est pas toujours très rigolo.
Ah non, puis alors en plus, si vous me permettez que je vous cite au tout début du livre, le tremblement de terre, mm-hmm. ce sont vos mots, se produisit un soir de mai. Dany rentra du travail et me dit « Je ne t'aime plus, je te quitte ». Tout simplement. 8 mots pour conclure ma plus longue relation à vie, 16 ans, 6 mois et 3 jours. Aïe!
Aïe!
Mais ça arrive!
Et
hein?
oui, ça arrive mm-hmm. et ça arrive soudainement comme mm-hmm. ça, sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on s'est installé confortablement dans une petite routine. On a le confort de cette vie-là qui mm-hmm. peut-être ne nous convient pas, mais c'est tellement plus simple de garder des œillères et de se dire qu'on ouais. est bien ouais. Que de chercher à... aller voir ce qui se passe ailleurs et ce qui pourrait être mieux pour nous, finalement.
Alors elle, cette Julie, dans Les dérapages de Cupidon, donc le tome 1,
oui.
Elle passe de bras en bras, de lit en lit.
Ben oui, parce
elle
qu'elle
est... Elle est très sexue, hein, la
oui,
Julie.
Oui, absolument,
hein, elle aime ça. Hein.
Oui, elle aime ça et elle se dit, ben il ne me reste pas tant d'années de vie sexuelle active, j'aimerais bien en profiter avant qu'il soit trop tard. Sexuelle, oui, mais aussi affective, parce que
Exactement.
Beaucoup de femmes vont donner du sexe pour avoir de la tendresse.
Ouais,
pour
non,
avoir...
non, c'est... Oui.
Et donc, c'est une façon qu'elle trouve, elle, pour essayer de combler un manque, un vide.
Je me suis dit, en parlant de Stomin, que c'était un livre éromantico.
Oui, ah, c'est beau, j'aime ça.
C'est beau, hein?
Mais c'est vrai, c'est tout à fait ça.
Parce qu'il y a à la fois toute la partie, oui, érotique,
oui, hein,
les
oui,
choses
oui.
sont dites.
Oui, tout à
et
fait.
Et puis aussi toute la partie ben, romantique de cette fille qui simplement en manque au départ d'une épaule, de quelqu'un sur laquelle elle
et
a
qui
envie.
Est la réalité de beaucoup de... C'était la mienne, quand je l'ai écrit d'ailleurs, mais...
C'est vrai.
C'est encore la mienne, mais en fait, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, les femmes vont... multiplier les aventures dans l'espoir de trouver cette fameuse épaule, cette fameuse paire de bras qui va apporter plus.
Oui.
Mais tout passe par le sexe et ça, c'est une réalité.
Oui, parce que souvent, et on le remarque, quand on s'interroge les uns et les autres, parfois on dit, mais enfin, comment ça se fait après si longtemps,
ouais.
vous vous aimiez?
Mm-hmm.
Et là, tu vois passer dans les yeux et tu dis, ah ok,
ouais,
j'ai compris.
C'est ça.
mais c'est terrible. Hein?
Oui, c'est terrible. C'est...
Et alors, et ce sont trois amis, hein,
oui.
Vous l'avez dit, Marie-Gré.
Oui.
Donc, Julie, c'est la première. C'est... Alors, les deux autres sont les amis qu'on va retrouver.
Oui.
Elles dans les deux
côtoient dans
livres.
Les trois livres, mm-hmm. mais chacune prend la parole à tour
oui,
de rôle.
Oui.
Et donc, dans le deuxième, c'est Maryse. Maryse, elle, contrairement à Julie, elle est heureuse, elle a sa famille, est mariée depuis 25 ans avec son amoureux d'université, tout semble parfait. Mais quand on gratte un petit peu la surface, on se rend compte que ce n'est pas aussi parfait que ça en a l'air. Comme aussi beaucoup de couples qui, mm-hmm. qui, comme je disais, les œillères sont souvent très solidement attachées. Et Maryse est profondément malheureuse dans cette union-là. Elle a été heureuse longtemps, mais elle se rend compte que ce n'est plus ce qui lui convient. Elle découvre certaines choses aussi sur son époux qui
okay.
la déstabilise, pour
un
dire
peu,
le
ouais.
moins.
Ouais.
Et elle chemine beaucoup là-dedans. Il arrive un drame que je ne peux pas dévoiler.
D'accord. Parce... Mais oui, non, mais absolument, vous avez raison, vous avez raison. Et le troisième?
Le troisième, Valérie, c'est la dépendante affective. C'est la femme... qui est incapable de rester seule, et je dis ça sans aucun jugement, hein. Bien mm-hmm. sûr, il faut comprendre que je connais beaucoup de personnes qui sont comme ça. C'est pas
Absolument.
Facile d'être seule,
oui.
c'est pas facile de faire un examen de conscience et de se regarder dans le miroir tous les jours et d'accepter qui on est devenu et qu'on est peut-être la meilleure personne pour s'accompagner soi-même.
Mm-hmm.
C'est pas facile, c'est pas simple, surtout quand on arrive dans la quarantaine, parce que là, il y a des questionnements qui s'ajoutent à ça. le corps qui change, nos mentalités qui changent, le vieillissement qui s'installe, la ménopause qui s'en vient. C'est un paquet de tremblements qui font en sorte que tout ça devient très difficile à gérer. Valérie, donc, finalement, elle a enchaîné les relations assez insignifiantes depuis longtemps avec des hommes qui sont assez fades et dont ses copines s'amuse aussi, disons-le.
Oui,
mais un jour, un bon jour, elle rencontre un homme, en fait, qui était une rencontre de Julie qui n'a pas fonctionné. Et Julie s'est amusée à les faire se rencontrer. Ça a été le coup de foudre. Ouais. Et l'homme en question fait la grande demande à Valérie. Ouais. Au lieu d'être super excitée, c'est la panique totale, parce que Valérie se rend compte qu'elle a beaucoup de lacunes, qu'elle a beaucoup de carences affectives.
Voilà, et les carences affectives, ça donne lieu à cette scène qu'on a entendue au tout début de notre
Pourquoi
entrevue.
Valérie a-t-elle tant de mal à s'abandonner à l'amour alors que c'est une belle chose qui lui arrive?
Baiser, le titre?
Oui.
Référence à faire l'amour aussi, dans le sens, hein,
dans les deux sens,
dans les deux sens, et le baiser aussi.
Bien sûr.
Bon, vous avez aussi écrit des histoires à faire rougir.
Absolument. Je n'en rougis aucunement.
Absolument, mais vous avez bien raison, absolument. Et puis, vous êtes en train, en ce moment, où vous avez déjà lu un autre livre, parce que dans une ancienne vie, vous avez chanté, Marie Gray.
C'est ça, oui. J'ai été chanteuse de rock pendant une quinzaine d'années. Et j'ai écrit un roman sur ce domaine-là, sur ce monde-là qu'on imagine très glamour et très, très clinquant. Et c'est la gloire est lourde.
Ouais,
et
ouais.
Donc, je voulais aussi parler des dessous de cette industrie-là qui ne sont pas très jolis, surtout quand on est une femme. Et des sacrifices aussi qu'on doit s'imposer si on veut percer dans ce domaine-là qui est difficile, qui n'est pas facile. C'était aussi un petit peu une allusion à tous les concours tels que La Voix.
Oui, bien sûr.
Que je trouve vraiment... difficile. Je trouve c'est très nocif pour les jeunes artistes.
Pour les jeunes. On leur vend du rêve. Enfin, on leur fait croire que tout va être facile.
On les propulse à un statut de végétariat incroyable. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent devant rien. Ça en a démoli plusieurs. Je pense que ça part d'une bonne intention. Mais en même temps, c'est une espèce de formatage aussi.
Ouais,
de toutes les voix qui se ressemblent, avec le même répertoire, avec
la
même allure, avec tout ça. Et donc... On formate une industrie et je trouve ça dommage pour la créativité, je trouve ça dommage pour l'individualité des artistes et aussi pour le cheminement parce que c'est important de pay your dues, comme ils disent en anglais. C'est important d'aller sur la route, de se casser les dents, de devoir recommencer. Mm-hmm. Ça fait partie, selon moi, du processus pour atteindre le niveau.
Alors, Marie Gray, tout ça, ce sont des productions Vues et Voix. On va avoir l'occasion, les auditeurs vont avoir l'occasion de vous rencontrer à notre kiosque à Vues et Voix dès la semaine prochaine, quand le salon va ouvrir. Alors, je vous rappelle son nom, Marie Gray, pour la trilogie qui s'appelle Baiser, mais également Les histoires à faire rougir. Et il était une voix que vous avez lu.
Oui.
Merci beaucoup, Marie Gray.
Ben, merci à vous. À très bientôt.
De rien. On va aller tout de suite, si vous le voulez bien, retrouver celle qui a fait l'objet du tout premier livre audio commercial. Il s'agit de Marie-Lise Pilote. Son livre a été édité par La Presse. Ben, allons-y tout de suite, tiens.
Immanquablement, le sourire me vient aux lèvres lorsque je pense à mes premiers pas à Montréal. Hey, ça faisait à peine 15 minutes que j'étais arrivée que je sentais déjà le besoin de marquer mon territoire. Je me souviens d'être entrée au dépanneur, d'avoir tendu la main au taciturne monsieur derrière le comptoir et lui avoir dit dans mon français du lac, ce qu'il y a de plus international, « Bonjour, là, moi c'est Marie-Lise. Je suis nouvelle dans le quartier, là. Vous allez être mon dépanneur. Vous, c'est quoi votre nom, hein? Vous auriez pas ça, une drille avec une mèche à béton? C'est pour poser mes tablettes. » À ces mots, il a froncé les sourcils et s'est demandé s'il ne devait pas partir en courant. Il m'a pris pour une folle. Oh oui. Et pendant tout le temps où j'ai été sa cliente, je crois que cette impression ne l'a jamais quittée.
Bonjour, bonjour Marie-Lise Pilote.
Bonjour Clotilde.
J'ai retrouvé la Marie-Lise que j'avais connue. J'ai découvert des pans de Marie-Lise que je ne connaissais pas. Je dois dire que j'ai toujours pensé que vous étiez un grand livre ouvert. Mais
oui.
Là, c'est encore plus vrai que vrai.
Ah ben on a plus de temps à dire qui on est en écrivant un livre qu'en faisant des entrevues souvent assez courtes. Alors, mais il y a une chose qui me fait très plaisir quand je suis arrivée ici, Clotilde, et que vous m'avez dit quand je lisais votre livre, je vous entendais. Mais à quelque part, je sais que ma voix est reconnaissable.
Aussi.
Souvent, les gens reconnaissent ma voix plutôt que mon visage.
Mais c'est pas seulement votre voix. Je trouve que c'est dans l'écriture, on reconnaît votre façon de vous exprimer.
Ah.
Les choses, quand les choses sont dites. Si nous disions, chère Marie-Lise Pilote, le titre de ce bouquin, ça s'appelle « Tout bas ou à voix haute ». Et comme pour le faire exprès, c'est un livre que vous êtes venu enregistrer ici, justement, à voix haute.
Oui, parce que moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait à voix haute. j'ai raconté des histoires toute ma vie.
Vous
ne pouvez pas faire de l'humour, on raconte des histoires.
Bien sûr.
Et j'ai toujours aimé faire la lecture, moi. J'étais tout petite, ma grand-mère Pilote qui était à l'hôpital, je lui faisais la lecture. Ma grand-mère Gobeil, je lui lisais le courrier du cœur et j'en mettais énormément. Alors, je la faisais rire.
En tant que copilote aussi, vous lisez des bouquins aux pilotes.
Oui. Mon chum et moi, quand on part en voyage, on se choisit souvent un livre qu'on sait qu'on devrait aimer tous les deux et on se fait mutuellement la lecture. Je l'ai fait en tournée avec mes directeurs de tournée quand on a une run de l'Abitibi-Montréal à faire. Je lis, je fais la lecture parce qu'à un moment donné, on ne sait plus quoi se dire. Alors, et je trouve ça fun. Et j'aime faire la lecture. Alors, j'avais envie, je pense qu'en mettant un titre comme « Tout bas ou à voix haute », je me disais, ce sont des histoires à lire tout bas ou à voix haute. C'est pour ça que je propose tout le long du livre des moments.
Voilà, des moments à lire tout bas, vraiment sous les couvertures presque, et puis d'autres moments non, à partager.
Exactement, à lire en transport en commun, pas en transport en commun, en transport avec son chum, lire sur le bord du feu en mangeant des guimauves, comme une histoire épeurante.
Ça fait que... Et alors, ce qui est fantastique, Marie-Lise Pilote, c'est que ce livre que vous aviez décidé donc d'appeler « Tout bas ou à voix haute » est devenu le premier livre commercial. Donc, c'est le premier livre audio enregistré par Vues et Voix.
Exactement.
On est comme tout le monde, il faut que l'argent rentre, il faut trouver des moyens de le faire.
Ouais.
Et on a pensé à ça. Et donc, vous êtes la première avec un livre qui s'appelle « Tout bas ». Ou à voix haute.
Et c'est ça qui est le fun, c'est que ça apporte une autre dimension complètement au livre. Parce que comme je suis l'auteur et que c'est moi qui lis les histoires, ben évidemment, je les ai jouées, je les ai interprétées. Et je voulais ajouter aussi des effets. je voulais que... Ça, alors, on a fait un bel enrobage. Ouais. Je pense que c'est quelque chose de le fun.
L'entrevue qu'on est en train de faire maintenant va aussi se retrouver sur les enregistrements. Et ça, c'est chouette parce que tout le monde ne peut pas être branché sur cette émission-là. On le sait, on n'est pas toujours là. Il devrait. Oui, je sais, Mathieu, t'as raison, il devrait. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est une question de temps aussi. Et alors, là, il y a ça. Mais là, je voudrais qu'on en revienne au livre.
Oui.
Parce que, par exemple, en page 207, à un moment donné, vous écrivez « Parmi les lectures que je préfère livrer à haute voix, trône en haut de la liste les mots qui ne se prennent pas au sérieux. » Et c'est exactement ça. Dans votre livre, vous avez tout voulu faire, sauf vous prendre au sérieux.
Ben, je pense que j'ai dit les choses à ma manière.
Voilà.
Jamais, en aucun cas, j'ai voulu être moralisatrice.
Non.
C'était ma peur, mais j'avais envie de transmettre des choses. Ce livre-là, je l'ai dédié à mes filleules, parce que j'en ai plein. Je suis une marraine dans la vie, moi. Mais j'avais envie de leur transmettre des choses que j'avais apprises au courant de ma vie. Et je me disais que en écrivant de petites histoires où j'avais été le cobaye, ben, je me disais que c'était peut-être la meilleure manière de leur transmettre ce que j'avais appris, qui moi m'avait servi dans la vie.
Et le spectre est très large, parce que ça va de la recette du ceviche, le meilleur d'après vous, jusqu'au deuil que vous avez que vous avez vécu. Mm-hmm.
Hein, j'ai 7 chapitres. Il y en a un qui parle de mes passions.
Oui, c'est ça.
Un autre qui parle des aventures.
Oui.
Un autre qui parle de la bouche d'une femme à l'oreille d'une autre. Donc, ce sont des textes qui parlent de nous, les femmes. Ouais. Ensuite, Parole de marraine. Où je parle aux jeunes, il y a même un texte où qui parle de l'humoriste en herbe. Je donne des conseils à ceux qui veulent faire des jokes, qui veulent peut-être faire un travail à l'école mais le rendre plus humoristique, alors je leur donne des trucs. Il y a aussi un chapitre sur mes ombres. Où je parle de choses qui ont été dures pour moi. Des fois j'en parle de manière légère, comme quand je parle de mes phobies, j'en parle de manière drôle, mais je veux dire, c'est quand même de vraies phobies. Ouais. Et le dernier chapitre, c'est sur la légèreté, l'indispensable légèreté de l'être, parce que je le crois, moi, pour passer à travers tout ce qu'on doit passer dans la vie, il faut faire preuve de légèreté, parfois. Il faut voir la vie avec...
Ce qui est certain, c'est que moi, j'ai trouvé que c'était un livre relativement salvateur, dans le sens que, comme je le dis souvent à des étudiants, si tu parles de toi, tu parles des autres.
Ouais.
Alors, forcément, les auditeurs qui nous écoutent vont parfois se retrouver complètement dans ce livre tout bas ou à voix haute. Ils vont dire « Oh mon Dieu, elle est comme moi. Ah mon Dieu, elle est pareille. Ah mon Dieu, on est pareil. » Puis là, tout d'un coup, la page d'après, ça va être finalement « Ah ben non, 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 ça, elle est très différente. » Et ce qu'ils vont découvrir de vous, c'est une honnêteté, mais une honnêteté, une sincérité à toute épreuve.
Ben, tant mieux, tant mieux. Puis, je sais comment puncher dans mes textes. Alors, tout à l'heure ici, je disais à Mathieu, qui est derrière la console, avec qui j'ai travaillé d'ailleurs. J'ai eu 3 techniciens avec qui j'ai travaillé et ça a été mes premières oreilles.
Oui.
Et je trouvais ça formidable parce que je me disais, je sais, il me semble que les femmes vont avoir une résonance en lisant mon livre. Mais est-ce que les hommes vont en avoir une? Et ils m'ont confirmé que
oui.
Tout à l'heure, Dani, j'ai rencontré un autre technicien qui me dit, j'ai eu un plaisir. Puis je le voyais aussi derrière la console, les épaules qui sautaient. Puis je pense qu'à certains moments, ils ont été émus.
Ouais.
Et Dani me dit tout à l'heure, tu sais, les textes qui étaient plus dédiés aux femmes, ben moi, je suis un peu voyeur, j'ai aimé les lire aussi.
Ah, oui.
J'ai appris des choses sur les femmes là-dessus. Alors, je pense que c'est un livre qu'on peut laisser traîner dans la maison et que chacun peut aller lire.
Un petit bout, tout d'un coup, on peut l'ouvrir à une page.
Ouais. Le livre audio, ce qui est formidable, c'est que, tu sais, avec les podcasts. Exactement.
Les podcasts.
Donc, on peut écouter deux histoires en allant travailler. Puis, soir, avec les enfants, ben, dans l'auto, s'ils sont turbulents, on leur met l'histoire de peur, les sous-sols épeurants. Comme ça,
oui, le pot qui grince, c'est les fleurs séchées à l'envers et tout ça. Et les hypothétiques rats et souris. Et alors, ce que j'ai adoré dans cette histoire-là, c'est votre grand-mère.
Oui.
Qui dit, seulement 2 minutes, c'est bien, ma petite fille. Elle était sûre que vous n'iriez pas. Ça, j'ai trouvé ça, délicieux. Voilà. Je pense que c'est le qualificatif, pour ce livre-là. C'est quelque chose de délicieux. Et vous avez raison de dire, il faut le mettre entre toutes les mains.
C'est rassembleur de lire à voix haute.
Oui, c'est ça.
Donc, si un des deux parents qui fait à manger, si l'ado veut lire une histoire, c'est super. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, quand on quitte un patelin tissé serré et réconfortant où tous ont le même accent, quand on migre vers la grande ville, une adaptation s'impose. Ça peut sembler banal pour les Montréalais, mais juste de vivre dans un endroit desservi par une multitude de transports en commun nous fascine dès notre arrivée. On est littéralement fou de joie de pouvoir faire le tour de la ville avec autant de facilité. C'est simple, mais c'est ce qui nous charme en premier. Dans le métro, quand naturellement j'entamais la conversation, je voyais bien que je surprenais les gens, mais c'était plus fort que moi. J'avais envie de savoir qui ils étaient. Après avoir constaté que je n'étais pas dangereuse, les passagers échangeaient avec moi avec plaisir. Ça me fascinait, moi, de voir autant de personnes dans un même lieu qui ne se disent pas un mot. Chez nous, c'était bien différent.
Ah, chère Marie-Lise Pilote, Marie-Lise que vous pourrez rencontrer au kiosque de Vues et Voix au Salon du Livre qui s'ouvre la semaine prochaine. Elle sera là, Mylène Paquette aussi va venir faire son tour et Marie Gray qui étaient mes trois invités du jour. C'était Clotilde Sey qui va vous souhaiter une bonne semaine. La semaine prochaine en direct, on va recevoir entre autres Claudia Larochelle et certainement Pascal Montpetit et Marat Tremblay pour une soirée Nelly Arcan que Vues et Voix propose au Salon du Livre et d'autres invités. Bien sûr, ne manquez pas ça. Bonne semaine tout le monde et bon salon si vous y allez dès jeudi prochain. Salut !